Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Hey, you know what? Cette émission ne pourrait pas avoir lieu quotidiennement sans Geneviève Méric, Tristan Grenassia, Ivy Paolo Antonacci, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, avec Midia Portis-Guérin, cette semaine à la réalisation et aujourd'hui à la technique, Anthony Thomasson. À 10h50, vous retrouverez François Nudelman pour le journal de la philosophie. François qui reçoit aujourd'hui Marc Crépon à propos de ses deux derniers livres, Élection de la démophobie, paru chez Hermann, et Le consentement meurtrier, paru aux éditions du Cerf. Pourquoi Venise ? Pourquoi de toutes les villes de la planète, c'est elle que l'on choisit pour écrire, pour aimer, pour rêver ? Bien sûr, en amour comme en écriture, on ne choisit pas, et plus on lui demande des comptes, plus la réalité nous échappe. Mais en l'occurrence, c'est un peu comme si tous les hommes étaient amoureux de la même femme, et ce, depuis toujours. Comme si Venise était un chiliogone, ce polygone à mille côtés, et que chaque facette était à ce point singulière que chacune correspondrait exactement au goût de l'un d'entre eux. Quelle conclusion en tirer ? Que Venise est suffisamment multiple pour que chacun y trouve son compte ? Ou que tout le monde, au fond, cherche la même chose ? Mais si la plupart des écrivains adorateurs de Venise sont des hommes, on n'aime pas une ville comme on aime une femme. On peut écrire sur Venise en étant à Venise, ce qui est plus difficile à faire à propos de l'être aimé, n'en déplaise au vicomte de Valmont qui fait du corps de sa maîtresse l'écritoire parfait pour rédiger sa correspondance amoureuse. Venise est à la fois objet et lieu. Elle fait coïncider le rêve et l'expérience, le désir et la jouissance, la fiction de l'écrivain et sa table de travail. Et si Venise était ce lieu de réconciliation entre le réel et ses interprétations, entre le masque et le visage ? Entre l'imagination et l'être au monde. Après Les Venises de Paul Morand, hier lundi, et avant L'amour de Venise de Marcel Proust, demain, et Les Morts à Venise de Thomas Mann et de Visconti, jeudi, c'est aujourd'hui à partir du regard de l'écrivain Philippe Solers que nous allons tout simplement penser Venise.
Jean Giono.
Non, non, je ne veux pas voir Venise. Alors ma fille m'a dit, mais si, il faut que tu ailles voir Venise. Je lui ai dit, non, Venise, Wagner, D'Annunzio, Voyage de noces, la gondole, non, je ne veux pas voir ça, ça c'est abominable, je ne veux pas voir ça. Elle m'a dit, tu as tort, papa, tu as tort, il faudrait que tu ailles voir ça quand même, tu sais, c'est pas du tout ce que tu prétends, c'est pas du tout ce que tu crois. Alors je dis, bon, ben allons voir cette chose qui n'est pas ce que je crois. Je me suis trouvé devant un spectacle qui était tout à fait différent de celui que je croyais. Car à côté de ces décors faciles que tout le monde connaît, à côté de ces petites plaisanteries qui consistent à se promener en gondole ou à imaginer qu'on est en voyage de noces ou d'y aller véritablement faire son voyage de noces, il y a la vie d'une ville très spéciale qui n'est pas construite sur le modèle des autres villes. Il y a d'abord ce silence qui actuellement est un peu troublé par le bruit des moteurs des vaporetti, mais... Le silence reste quand même. Il y a cette foule silencieuse qui se déplace le long des canaux sur de petites rues très étroites qui sont en encorbellement au-dessus de l'eau.
La pluie mettait sur Venise un manteau gris qui pouvait être poétique pour cette pauvre ville qui craque de tous côtés et qui s'enfonce d'heure en heure dans la tombe, mais il était très peu agréable pour un Parisien qui jouit les deux tiers de l'année de cette mante de brouillard et de cette tunique de pluie. Il est un point qui me ravit, c'est le silence de cette moribonde. Et cela seul me ferait aimer l'habitation de Venise et va à mes secrètes inclinations qui, malgré les apparences, tendent à la mélancolie.
«
ces tristes Venises, au temps des amours mortes, que ces tristes Venises, quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que ces tristes Venises.
Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
C'est donc avec vous que nous allons faire cette seconde émission sur Venise, puisqu'hier nous parlions de Paul Morand, nous parlerons de Proust demain, puis de Thomas Mann et de Visconti jeudi. Et aujourd'hui, c'est à partir de votre dictionnaire amoureux de Venise que nous allons parler donc de Venise. Et on a entendu en début d'émission d'abord Jean Giono qui expliquait pourquoi il ne voulait pas aller à Venise, et puis ensuite sa fille l'ayant forcé à s'y rendre, il y est allé, il a été surpris d'aimer cette ville, et il parle notamment de ce silence, cette ville silencieuse, idée que reprend ensuite Balzac dans le texte qu'on a entendu juste après la voix de Jean Giono, texte interprété par Daniel Mesguich, où Balzac parle de cette pluie qui tombe sur Venise et qui fait de Venise une ville très triste, mais une chose sauve Venise à ses yeux, c'est ce silence à nouveau.
Oui, oui, oui. Ça, c'est la légende. Il faut mettre les dates. Parce que si on ne met pas les dates, on va rester dans le 19e siècle pour toujours, c'est-à-dire dans la légende doloriste que M. Aznavour interprète, que c'est triste Venise, la mort à Venise que vous allez traiter bientôt, et que ça continue comme ça depuis très longtemps. La mort à Venise, la tristesse à Venise, les amours mortes, etc. etc. Mon expérience est tout à fait à l'opposé de ça, et c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre les dates. Venise est au contraire une ville extraordinairement vivante, à condition de la prendre par l'eau, par la mer, par le mouvement du port, qui en 30 ou 40 ans, j'ai vu ça, j'étais là tout le temps. Par conséquent, j'ai vu monter en puissance le contraire de cette légende des morbide, etc. Le contraire, c'est-à-dire l'arrivée de tous les pays, des paquebots géants souvent, qui menacent peut-être les rives, les Vénitiens s'en plaignent, mais c'est un spectacle ahurissant de voir à quel point la vie est reparti à partir de l'eau. Si on ne prend pas Venise à partir de l'eau et de façon maritime, on est coincé soit dans le tourisme de masse, dont on peut s'écarter très vite en prenant une ruelle adjacente, et en effet on retrouve ce silence qui n'appartient qu'à Venise, mais ce silence est plein de musique, parce que c'est un silence tout à fait peuplé. Vous avez les goélands, les mouettes, sans arrêt. Vous avez les cloches qui sonnent de façon admirablement aérienne à partir de midi et de nouveau à 6 heures, etc. C'est une ville où vous entendez très souvent des cloches. Oh, moi, j'adore le son des cloches, j'adore les oiseaux. Donc, c'est un silence, si vous voulez, mais pas vraiment, parce que la musique de tout ça est perceptible si vous avez l'oreille pour ça.
Oui, mais le silence, c'est peut-être aussi celui du contraste entre ce qu'on a pu lire, voir, entendre de Venise, puisque Venise est quand même énormément décrite par les romanciers, par les écrivains, par les
que
penseurs,
clichés,
par les artistes.
Que des clichés.
Peut-être, mais en tout cas, peut-être le silence dont fait l'expérience Jean Giono, Balzac, puis Giono,
oui,
c'est,
Balzac,
ce contraste. C'est-à-dire qu'on arrive à Venise et on se rend compte qu'en fait, on la croit peuplée par ces clichés, mais qu'il y a une expérience subjective lorsqu'on arrive à Venise, n'est pas ressaisissable par ce qu'on a pu en lire.
C'est une ville très dangereuse, je vais vous dire pourquoi. C'est piège d'abord, piège tourisme, patati patata, les masses de touristes que vous pouvez éviter, qui se massent tous au même endroit, Place Saint-Marc, etc., le pont des Soupirs, les Japonais, voilà. Bon, vous vous écartez, bon. Premier piège. Deuxième piège, ça très important, c'est que si vous êtes malheureux, Venise va décupler, centupler votre malheur. Ça, c'est vraiment, alors que c'est triste, c'est la mort, c'est un choc de mélancolie profonde. En revanche, si vous êtes heureux ou si vous êtes dans des circonstances bénéfiques, c'est la même chose. Ça va être 10 fois plus et 100 fois plus. C'est une ville très piège pour ça. Soit elle est bleue, admirablement ouverte et à qui est heureux, soit elle se referme et elle chasse, elle punit le malheur. Voilà.
Mais alors comment, justement, là, vous rentrez dans le cœur du sujet, comment parler Alors, quand on parle de Venise, on parle d'une idée, on parle d'une ville, on parle d'une expérience. Comment cerner cet objet-là? Vous avez écrit un dictionnaire amoureux de Venise, mais de nombreux textes que vous avez écrits prennent aussi Venise ou comme objet, ou comme décor, ou comme lieu. En tout cas, il est question de Venise. Comment parvenez-vous à saisir ce dont vous parlez lorsque vous parlez de Venise? Est-ce que vous parlez d'un objet, quelque chose que vous aimez, donc ce serait un objet, d'un lieu, quelque chose qui inspire l'écrivain? Comment définir cette Venise-là? De quelle Venise parle-t-on?
C'est quelque chose qui n'est pas une ville. C'est un continent à soi seul. Donc c'est très étrange. Voilà une île où une ville s'est développée, où vous n'avez pas, évidemment, pas de voiture, pas de circulation. Venise pouvait apparaître au XIXe siècle comme moribonde, comme quelque chose qui allait s'enfoncer dans l'eau, disparaître. C'est encore dans les imaginations que c'est une ville morte, etc. Bon, au contraire, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas moi, une soucoupe volante qui s'était installé sur Terre, hein, et qui représentait des chefs-d'œuvre, alors à n'en plus finir, d'architecture, de musique. La créativité de Venise, et dès que vous êtes là, soit ça vous déprime parce que vous trouvez ça trop beau, c'est trop et trop et trop, il y a un syndrome par rapport à la beauté psychiatrique, soit au contraire, vous êtes porté par cette effervescence que vous sentez. Donc c'est une ville où vous êtes tout le temps dedans et dehors. Ça, c'est très impressionnant, il n'y a pas de voiture. Donc, vous prenez les bateaux, vous prenez ceci, voilà. Vous êtes dans une situation très, très, très particulière. C'est que si vous rentrez, de plein pied, et si vous sortez, vous êtes encore dedans. Il n'y a ni dedans, ni dehors. Tout ça communique ensemble. Et l'eau est évidemment l'élément absolument principal, avec les oiseaux.
Alors, dire que Venise n'est pas vraiment une ville, puisqu'on est à la fois dedans et dehors, c'est aussi soulever un thème qui est très important dans la réflexion sur Venise, dans la réflexion en tout cas telle que vous l'avez menée, Philippe Soler, c'est cette opposition, ou au contraire, cette réconciliation entre deux opposés, l'intérieur et l'extérieur, l'apparence et l'essence. Venise est aussi la ville du masque, la ville du carnaval, la ville dont célèbre une forme d'apparence. Et vous dites justement, Venise, mais son masque la protège.
La dégénérescence du carnaval à Venise est absolument pénible. Je reprends sur le fait qu'il y a deux villes. Une ville gothique et une ville renaissante. C'est-à-dire, si vous êtes sur la Giudecca, par exemple, vous avez Palladio qui a fait les villas magnifiques tout autour de Venise. Et ça, c'est vraiment la très grande architecture. Attention. Donc, par exemple, Morand ne voit pas Palladio. Il y a un seul visiteur qui l'a vu, c'est Goethe. Donc, très, très, beaucoup plus subtil, beaucoup plus sensible. Voilà, vous avez deux villes, et ces deux villes sont opposées, en quelque sorte. L'une tire vers le médiéval, enfin, bon, quelque chose comme ça. L'autre, au contraire, est largement ouverte. Sur quoi? Mais sur le monde. Les marins vénitiens ont conquis le monde entier. Donc, il n'y a pas que Marco Polo qui est allé en Chine, mais il y a, l'aéroport s'appelle comme ça, mais il y a aussi tous ces marins qui ont été absolument des aventuriers de génie. Quand vous rentrez par l'eau et que vous voyez la Dogana, par exemple, avec sa boule ronde d'or, vous imaginez très bien l'émotion qui pouvait être celle des marins qui revenaient de très loin, de très longues traversées, n'est-ce pas? Voilà. Donc moi, je sens ça, et immédiatement, ça me met dans un état d'euphorie très, très, très bizarre, physique. Hein, voilà. Et donc, j'écris.
Mais alors, vous parlez de ce choc physique, et donc vous essayez de ressaisir votre expérience de Venise en tant qu'être humain, l'expérience sensible. Mais vous allez plus loin également, puisque dans tout ce que vous dites sur cette opposition entre un dedans et un dehors, en fait, le recto et le verso de Venise, on peut la retourner dans beaucoup de sens. Ce que vous semblez mettre en œuvre, c'est aussi une réflexion sur la façon d'être à Venise. C'était aussi tout un rapport au monde, un être au monde. Vous écrivez « Être là est un art et Venise exige un pari sur soi. Sinon, exclusion, décor. » Il y a donc une manière d'être à Venise qui engage beaucoup plus que la simple expérience, la simple sensibilité.
Certainement. Et cette manière d'être, elle est peu connue, voire même tout à fait méconnue, tout à fait voilée. Venise est une ville qui se protège. Vous avez, par exemple, des gens, je ne citerai pas les noms, des académiciens qui ont des palais, comme ça, du côté, enfin, bon, là, sur le Grand Canal, vous voyez. Voilà. Des académiciens. Si, et qui se reçoivent les uns les autres, qui bavardent, qui déjeunent. Moi, non. J'ai été tout le temps à l'écart du tourisme, des mondanités, etc. Et il y a une ville fabuleuse quand vous entrez dans les quartiers plus populaires, où vous avez là une liberté de pensée et de corps considérable. Donc il faut aller du côté de la gare maritime, dans les quartiers populaires, de ce côté-là. Vous ne rencontrez jamais quelqu'un, parce qu'il n'y a rien à acheter. Il n'y a pas de magasin. Vous ne rencontrez jamais quelqu'un de bourgeois, ou là, par là, ou très peu. Voilà. Donc, vous êtes dans les quartiers populaires. À partir de cette vitalité des corps vénitiens, hein, qui sont étonnants, hein, de rapidité, de sveltesse, d'habileté, les hommes, les femmes, il y a là quelque chose qui vient de très loin, comme une génétique particulière. Donc, que Casanova, par exemple, vénitien, écrivant français, vous communique à chaque instant si vous ouvrez l'histoire de ma vie.
Je pense que c'est une ville qui est profondément mélancolique, une ville, la dimension du plaisir, de la jouissance esthétique est très présente, mais c'est la ville du narcissisme par excellence, avec ce miroir permanent de l'eau, ces dimensions spéculaires, qui fait que si vous avez une tendance autiste à l'introspection, elle devient disproportionnée dans cette ville. C'est une ville aussi où on tourne en rond. Il n'y a pas d'issue. On est coincé.
N'oublions pas un détail humblement matériel. L'eau fut, pour l'espèce humaine, sa première surface réfléchissante. Stagnante, huileuse et lustrée, elle se prête encore mieux au tête-à-tête. Le berceau de nos peintres et amours préférés, trêve de trémolo. Ce n'est pas Carpaccio ou Titien, ni le visage de nos bien-aimés, glorieux et tendre alibi, que nous venons y déguster, mais notre seul reflet. On va à Venise pour parler et faire parler de soi. L'endroit n'aurait pas régalé chaque génération de bipèdes sans plumes s'il ne ramenait mieux que tout autre au stade du miroir, avec ses longs étonnements. Et oui, c'est moi, c'est bien moi, regardez. International du miroir, Narcisse de tous les pays, unissez-vous.
S'endort dans l'ombre exquise. Vois sur les canaux mourir la brise et courir un frisson léger comme un baiser. Mais aussi car ici jusqu'au jour, c'est la ville de l'amour.
Philippe Solers, on a cherché pour préparer cette semaine quelqu'un qui n'aimait pas Venise. Et on en a trouvé un, et pas n'importe lequel, puisqu'il a écrit un livre contre Venise, qui s'intitule d'ailleurs Contre Venise, et c'est Régis Debray.
Dont j'ai lu un... aurait dû l'appeler Contre Solers, en fait, c'est son intention.
Vous le prenez personnellement. En tout cas,
dans ce texte,
j'ai pu le donner à entendre, il fait de Narcisse, bon lapsus, il fait de Venise la ville de Narcisse par excellence.
Oui.
C'est-à-dire que lui, ce que vous dites sur l'eau, sur cette liberté propre à l'eau, cette beauté qui se dégage, lui, au contraire, il voit un reflet dont on ne peut se défaire, si bien qu'en allant à Venise, on se contemple soi-même.
Que répondez-vous à ça ? C'est une erreur profonde qui prouve que le pauvre Debray ne s'aime pas. Donc, quand il tombe sur son image, il est effrayé. Et quand il est à Venise, il croit être devant un miroir.
Oui, mais là, vous lui donnez raison en disant ça, puisque vous dites qu'il faut s'aimer pour aimer aller à Venise. Et donc, Venise nous renvoie à nous-mêmes.
Voulez-vous me dire pourquoi il ne faudrait pas s'aimer ?
Mais ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que Venise, est-ce qu'on peut aimer Venise que si on s'aime soi-même ?
Vous sentez bien que tout ça, ce sont des opinions, des réactions morales. morale. C'est ce que provoque toujours la beauté, d'une certaine façon. Trop de beauté, trop de liberté, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut souffrir, il faut que ça soit engorgé, il faut qu'on ne puisse pas sortir. Vous me proposez la liberté, je trouve ça sans issue, etc., etc., etc. Vous avez des clichés, des tonnes de clichés là-dessus. Vous avez deux philosophes, comme par hasard ce sont des philosophes, ah, les philosophes à part Nietzsche, deux philosophes là qui ont été souffrants à Venise. Régis Debray, qui a trouvé que son absence de beauté ne correspondait pas à l'extraordinaire beauté qu'il avait sous les yeux, et on souffre à ce moment-là. Et vous en avez un autre, alors qu'il est devenu carrément psychotique, fou, hein, qui le dit d'une façon admirable, hein, dans les carnets de la drôle de guerre, etc. Il a même envisagé de faire un livre là-dessus, c'est Sartre. Sartre, à Venise, perd son identité, vous dit qu'il ne peut pas être là, que la lagune, que l'eau, c'est vraiment putride, que c'est vraiment monotone, que c'est ennuyeux comme tout. Il souffre. La nuit, il marche dans Venise avec Simone de Beauvoir et là, ils marchent beaucoup tous les deux. Et Beauvoir, d'ailleurs, est beaucoup plus sensible. Elle repère les enfants, les corps, etc. Alors que Sartre, non, il est habité par une sorte de haine farouche de Venise et un petit matin, il dit à Simone de Beauvoir que dans une hallucination, il avait des hallucinations à l'époque, il avait été suivi pendant toute la nuit par une langouste, et j'ai proposé en effet qu'on installe dans un petit coin une belle langouste qu'on appellera Simone de Beauvoir, avec la phrase de Sartre. Bon, donc vous avez le philosophe est en péril à Venise. Pourquoi ? Parce que c'est une ville d'art. Et l'art vous déborde de partout. Si vous envoyez autre chose que cette musique absurde que nous venons d'entendre, je suis désolé, vous avez comprendre que Monteverdi, Vivaldi, etc., c'est absolument la chose évidemment à écouter. On ne va pas... Ah, mais alors, Monteverdi, mais oui, mais c'est religieux. Mais bien sûr, c'est religieux. Bien sûr, Gloria, Patria, et Filio, et Spiritui Sancto, je vous en fais des tonnes, des heures. Et voilà.
Non, mais je vois donc, pas en quoi... Attendez, et la beauté et la religion excluent
la peinture,
les philosophes
la peinture
de Venise.
Et la religion. Il y a la religion catholique, pour l'appeler par son nom, c'est-à-dire la révolution du baroque catholique. Il faut oublier de l'appeler ça contre-réforme, hein, parce que ça, il faut en sortir. Vous avez eu cette merveille, hein, qui a été architecturale, pictural, Titien, voilà, par exemple, rien que lui, avec la liberté de créer, il s'est installé à son compte. Ce sont des gens d'une liberté, mais inouïe, dans la vie même, il faut lire l'Aretin, Titien, etc., la vie des peintres, Tintoret, Tiepolo, dont il faut parler, les plafonds de Tiepolo sont quelque chose d'absolument admirable. Vous entrez dans une église, vous restez là, et c'est absolument génial. La musique, bah, c'est pareil, vous avez Monteverdi, Vivaldi. Si vous allez, par exemple, au Frari, vous entrez, vous avez une Assomption de Titien, rouge, qui s'envole. La Vierge Marie, c'est exactement la même chose qu'une Vénus couchée nue. Hein, ça, Venise permet que le profane et le sacré s'entremêlent. Donc il n'y a aucune différence. C'était peut-être la boulangère du coin, d'ailleurs, qui faisait à la fois Vénus et à la fois la Vierge. Et puis, juste à côté, vous avez une dalle où vous avez le corps, les restes de Monteverdi. C'est très bien entretenu. Et il y a toujours quelqu'un qui vient poser une ou deux roses sur la tombe de Monteverdi. Eh bien, je fais pareil.
Alors, vous avez parlé de Monteverdi. On a également Vivaldi, qui est un compositeur vénitien.
Oui, de préférence, écoutez, Abbas, Aznavour, le reste.
Je désire être ramené vers les dioramas dont la magie brutale et énorme sait m'imposer une utile illusion. Je préfère contempler quelques décors de théâtre, où je trouve artistement exprimés et tragiquement concentrés mes rêves les plus chers. Ces choses, parce qu'elles sont fausses, sont infiniment plus près du vrai, tandis que la plupart de nos paysagistes sont des menteurs, justement parce qu'ils ont négligé de mentir. Thank you. À Venise, nature et peinture sont une seule et même substance. La nature ne s'arrête pas de peindre. La peinture n'est pas une représentation. Elle est réelle. Et tout cela forme un théâtre de respiration. Solers, vous avez présenté cette Venise artistique, libre, pleine de beauté, magnifique, musicienne, peintre, que sais-je encore. Mais tout cela n'est pas une raison suffisante en soi pour en exclure du coup la pensée, les philosophes. Il y a des choses à dire, y compris sur la beauté et sur l'art d'un point de vue philosophique. Et notamment, je pense à une position qui consisterait à faire de cette beauté-là, donc de l'apparence, non pas un voile qui recouvrirait une essence, mais au contraire, l'essence en tant que telle, c'est-à-dire comme le dit Baudelaire dans le texte que j'ai lu juste avant, hein, ces choses parce qu'elles sont fausses, sont infiniment plus près du vrai. Donc là, on peut retourner la question et se dire que c'est parce que Venise est belle qu'elle donne à penser.
Oui, c'est ça. En somme, voilà ma position. Je vois les philosophes très embarrassés par Venise. Ils manient les concepts abstraits, ils sont débordés par la beauté, donc ils sont pétrifiés ou chagrins, ou voilà, plein de ressentiments. Premièrement. Deuxièmement, j'ai toujours pensé que la littérature, la peinture, la musique pensent beaucoup plus et au-delà que la philosophie. Ça pense plus, vous comprenez, parce que c'est moins spécifique et c'est beaucoup plus varié et beaucoup plus vivant. Vous avez un grand peintre français, dans mon roman qui s'appelle L'éclaircie, que je publie maintenant, il est question beaucoup de Manet, Édouard Manet. Édouard Manet est le premier français, en 1875, à avoir peint deux sublimes tableaux sur Venise, donc dans une sorte d'énergie et de beauté. Vous voyez ces deux tableaux, Manet, Édouard, et vous savez que tout le monde venait cracher sur les tableaux de Manet à Paris, n'est-ce pas, l'Olympia, le déjeuner sur l'herbe, etc. Bon, vous interrogez Debray ou Sartre sur Manet, ils n'ont rien à dire. C'est dommage, parce que vous avez des femmes, ah, voilà le problème. Peut-être, et vous l'avez signalé tout à l'heure, si je me souviens bien, oui, qu'est-ce qu'il y a dans la peinture qui fait qu'il y a des femmes? Eh bien, par exemple, plein de femmes chez Manet et chez Picasso, ça n'arrête pas, etc. Elles sont un peu déformées, cela. Donc, ils reprennent une tradition très ancienne que vous avez, en effet, chez tous les peintres classiques, que ce soit Tintoret, Titien, etc. C'est-à-dire Watteau, Fragonard, surtout, c'est-à-dire vraiment la vitalité sensuelle des corps. Ça, c'est l'essentiel dans la vie humaine, c'est cette expérience-là, au lieu que de vider des idées abstraites n'a pas grand intérêt. Et la preuve, c'est que le carnaval de Venise, qui est devenu pitoyable, qui a été une source de fêtes considérables, mais vraies, est devenu un marketing épouvantable de mode, etc. Et vous savez quoi? Chaque année, on met en scène un mannequin qui est censé être Casanova, comme si ça pouvait faire vendre. Vous avez de tout avec Casanova, des produits de beauté, des restaurants, tout, Casanova, Casanova, Casanova. Eh bien, c'est comme si il fallait faire disparaître l'existence concrète de Casanova. Et ça fait 10 ans que je réclame qu'on aille fouiller une petite église en Tchéquie, où je suis allé, où il est enterré, d'ailleurs avec une épitaphe en allemand, ce qu'elle comble, etc., et qu'on ramène ses os à Venise, et qu'il y ait une grande cérémonie place Saint-Marc, puisqu'il s'est échappé de la prison des plombs par les toits, ce qui est une aventure qui l'a rendu célèbre dans toute l'Europe. Donc voilà, mes modestes propositions. Je vous assure que Casanova est un vrai philosophe.
Mais alors, vous voyez, justement, je suis heureuse de vous l'entendre dire, puisque vous aviez l'air d'opposer d'un côté l'abstraction conceptuelle du philosophe et de l'autre l'empirisme sensible des artistes. Mais l'opposition est complètement factice.
Mais ce n'est pas un empirisme, chère madame. C'est une action qui est très, très, très profondément pensée. il faut savoir...
Donc dépassons cette opposition entre philosophie
penser,
et artiste.
Il faut savoir penser avec la musique, les peintres, l'architecture, etc. Et ne pas séparer l'art, l'esthétique de la
et
pensée.
Ben, alors nous sommes bien d'accord. Et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre dictionnaire, puisque vous dites que nature et peinture sont une seule et même substance. La nature n'arrête pas de peindre et la peinture n'est pas une représentation. Donc vous-même jouez avec cette définition du réel en montrant que le réel ne s'oppose pas à ces représentations. Comme le dit Nietzsche lui-même, il n'y a pas de réel, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Et donc vous vous placez ici, donc on en revient au titre même que nous avons donné à cette émission, sur le regard, la façon dont nous appréhendons et aimons Venise dépend du regard que nous jetons sur elle. C'est une histoire de perspective.
Et oui, et c'est pour cela qu'il faut s'impliquer et que chaque individu, que chaque corps s'implique ou pas, jusqu'où. J'ai un mot de Gustave Léonard que j'adore. Il vient de mourir, comme vous savez. Un journaliste lui demande alors, vous allez interpréter les variations Goldberg, oui, de Bach. Et la réponse de Léonard est fabuleuse. Et il dit, monsieur, je n'interprète pas les variations Goldberg, je les joue. Eh bien, tout est là. C'est-à-dire, si vous jouez à la peinture, si vous jouez à vous impliquer, dans la, ou pas, vous êtes alors touriste, vous êtes spectateur, vous défilez devant les tableaux. Les gens croient, figurez-vous, que la peinture est une image. Ce n'est pas une image. Il faut savoir la touche de pinceau. Ce que Picasso disait de Manet, l'intelligence éclate dans chaque coup de pinceau de Manet. Donc, si vous n'entrez pas dedans, comme dans Venise, eh ben vous restez dehors et vous croyez avoir vu du décor, etc. Et vous repartez en chantant probablement de façon un peu déprimée. Oh, après tout ça, oui, voilà.
Mais Philippe Solaire, est-ce que cela relève d'un choix? Est-ce qu'il suffit de décider d'entrer dans Venise, de toucher le monde avec son pinceau pour le faire? Vous voyez, là, je m'adresse à l'écrivain. Comment fait-on pour ne pas retomber dans un cliché, pour ne pas rester à l'extérieur?
Vous venez de dire. Et ça, c'est, excusez-moi, c'est extraordinairement. Comment fait-on? Mais il n'y a pas de on. On n'existe pas. Il n'y a pas de on, sauf dans les sondages. Si vous
bien sûr, on n'existe pas, mais on est bien obligé de le postuler pour que le discours soit intelligible aux oreilles des autres.
Vous avez à dire j'aime ceci, j'aime cela, telle chose, parce que, etc. etc., etc. Sans quoi, on parle. Mais on dit, vous êtes philosophe, donc vous avez lu Heidegger sur le on dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire on ne dit rien. Hein, on parle, mais sans rien dire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent sans rien dire. Voilà, hein. Donc, on n'est pas là pour être on. Et on n'est pas là non plus pour être nous. On est là, pas pour être moi narcissique, ah, là, encore la prédication du nous et du on. Non, on est là pour être en première personne et, si possible, être saisi par ce qui se passe. Moi, je n'ai pas eu à choisir ou à décider. Ça m'est tombé dessus. J'ai été saisi par Venise, comme si c'était le lieu et la formule, comme dit Rimbaud. Je suis arrivé un soir et ça a vraiment été un choc tellement considérable que j'ai dit que j'allais y passer beaucoup de temps, ce que j'ai fait.
Donc voilà, ma question aurait pu être celle-ci. Comment faites-vous pour vous défaire du « on » Comment le jeu qui arrive à Venise fait-il pour ne pas appréhender Venise à travers ce regard général, celui du « on », de celui qu'on a lu, celui des clichés? Vous avez l'air de dire « moi, je n'ai pas eu le choix, ça m'est tombé dessus
ben ». Oui.
Donc en tant que dans ce cas, pourquoi essayer d'écrire sur Venise et d'écrire sur cette expérience-là si on ne peut pas la communiquer, si ça ne relève pas d'une volonté?
Très bien, puisque je publie des... J'écris des livres, personne n'ose vraiment dire qu'ils sont mal écrits. Bon, vraiment, écoutez, le on, le nous, tout ça, c'est le gros, l'animal social, le gros animal, comme disait Simone Veil en citant Platon d'ailleurs, le gros animal, le gros animal. Essayez de dire je devant le gros animal, vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce qu'il faut une commune mesure et que tout soit réduit à ça. Donc, moi, vous savez, ça s'est passé très simplement. Il se trouve que dès l'enfance, ce qu'on me disait en termes de nous, de on, etc., m'échappait totalement. Je me tenais à l'écart. J'ai passé ma vie à préserver cette enfance parce que j'ai senti que c'était vrai, alors que le reste était faux. Les adultes mentaient, je les voyais vivre, et depuis j'ai pu garder l'habitude de regarder ce qui se passe. C'est-à-dire, si vous voulez, parlons des marchés financiers. À ce moment-là, nous allons rentrer dans le « on », le « nous », etc., la tragédie, le triple A, tout ce que vous voulez, la TVA fiscale, c'est-à-dire des choses que vous entendez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous en êtes intoxiqué, les élections présidentielles, mais oui, moi aussi, je suis intoxiqué. Nous sommes, alors pour le coup, hein, eh bien, je pense que ça, c'est la tragédie de notre temps. Il y a très peu, merci de m'avoir invité, il y a très peu de moments où on peut parler tranquillement, d'une façon un peu passionnée, de telle ou telle œuvre d'art.
Et pourtant, quand vous parlez de Venise, vous parlez d'un sujet qui a quand même été extrêmement traité. C'est pour ça que la question a un sens. C'est comment parler de manière intime d'un sujet qui est galvaudé, d'un sujet qui a été épuisé par les romanciers, par les peintres.
Pas du tout. Prenez les plus grands. Je vous ai dit, Morand, Venise au pluriel, il
ne
voit pas la moitié de Venise. C'est déjà grave, parce qu'en plus, il va se glisser à cause de sa femme vers la religion orthodoxe et se faire incinérer. Bon, il y a un truc érotique un peu intéressant. Proust, il est venu qu'une seule fois. Évidemment, ça l'a tellement impressionné qu'il rêve sans cesse d'y revenir. La recherche du temps perdu, ça pourrait s'appeler « Oh, est-ce que je retournerai un jour à Venise ?» Bon, là, ça peut... D'ailleurs, dans mon dictionnaire, je traite tous ces géants. Alors, si vous allez alors dans le faux, admirablement fait d'ailleurs, là vous êtes avec la mort à Venise, Visconti, mais tout ça c'est du 19e siècle abruti.
Vous écoutez France Culture, il est 10h36, vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance où nous parlons de Venise toute cette semaine et aujourd'hui du regard amoureux de Philippe Solers. Je dis regard amoureux. Effectivement, on a parlé du regard, la façon dont on pouvait regarder Venise, penser Venise, vivre Venise. Cette histoire d'amour, vous faites un dictionnaire amoureux de Venise. Alors certes, c'est le titre, la collection qui le demande, mais enfin, vous y parlez d'amour dans ce dictionnaire. Il y a une entrée au terme amour, mais ça va de pair avec énormément d'entrées à partir de Vénitiens ou d'hommes qui sont allés à Venise. Et vous accordez une grande place à cette approche, disons, plus intellectuelle, en tout cas intelligible de Venise, comme pour la resituer dans une histoire intellectuelle
dans le temps.
Dont on ne peut pas la séparer.
Dans le temps. La grande illusion, c'est de ne pas connaître les dates. Et c'est pour cela qu'en général, l'évacuation de l'histoire a lieu, comme vous savez. La culture générale, n'en parlons plus, Sciences Po, vous connaissez toutes ces histoires. Bon, en fait, que veut un système contrôler au maximum ses citoyens? Par conséquent, moins ils savent l'histoire, et plus ils sont vulnérables à l'intoxication qu'on leur présente comme seule réelle. Par conséquent, vous évacuez l'histoire, vous ne mettez pas de date. Quelqu'un qui était extraordinaire, c'est Picasso, qui datait très précisément ses tableaux, toujours. Il a dit, un jour, il y aura une science qui comprendra pourquoi ce matin j'ai fait ça, et cet après-midi j'ai fait ça. Donc c'est une expérience du temps admirablement concentrée, et je trouve ça vraiment saisissant. L'oubli des dates L'oubli de l'histoire, je vérifie ça tous les jours. Vous savez, je travaille dans une maison d'édition. Par conséquent, je vois des gens, je vois des autres, jeunes auteurs, etc. Qui l'ignorance historique s'accroît avec une vitesse considérable. Hein, ça va à toute allure. Et ça, c'est une sorte de programme de servilité. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas critiquer grand-chose. Hein. Si vous ne savez pas à peu près ce que Voltaire a dit, vous ne pouvez pas voir que sous vos yeux s'étale, pour reprendre un de ses mots, l'infâme. Hein. Écrasons l'infâme. Oui. Eh bien, il y a de l'infâme dans le monde où nous vivons. Voilà. Et c'est pour ça que Venise vous propose tout à fait autre chose, c'est-à-dire une civilisation grandiose, comme les Grecs ont pu l'être, un miracle. Il y a eu des miracles. Moi, je suis un fervent défenseur des miracles. Il y en a eu. Il n'y a pas eu que des massacres, que des chardiers, que des exécutions, que des chambres à gaz, que ceci, c'est là. Bien sûr que oui. Staline était un professionnel du mensonge aussi, du déguisement. Nous avons eu, là, beaucoup, voilà. Je suis partisan du fait que tout le monde parle en fonction de soi. Pas du tout par narcissisme, pour que la vérité puisse être dite de telle ou telle situation.
Quelle est la vérité, quand même ?
La vérité, c'est quelque chose qui surgit s'il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. Ce qu'a découvert quand même une découverte importante, le docteur Freud à Vienne, il y a déjà un certain temps. Voilà, la vérité finit par surgir. Comme disait le charmant ami que j'avais qui s'appelait Lacan, il disait la vérité a structure de fiction. C'est-à-dire, si vous commencez à faire une fiction, eh bien, la vérité a brûle pour point, ça c'est laid, ça c'est moche, c'est bien. Non. Si vous commencez à inventer un petit scénario de littéraire, etc., la vérité va surgir. Et c'est ce qu'a fait admirablement M. Proust, par exemple, avec sa recherche du temps perdu. S'il a mis le temps dans son titre, c'est pas pour rien.
Sauf que chez Proust, effectivement, la vérité ne surgit pas avec une discussion dans la communication avec un autre, mais au contraire, de manière involontaire, à l'aide de ces deux pavés inégaux dont il fait l'expérience ensuite dans la cour des Guermantes, qui lui rappelle les pavés inégaux sur la place Saint-Marc de Venise.
Vous remarquerez que ça porte alors sur la mémoire, et quand je dis que l'histoire est évacuée, que les dates sont confondues, que tout s'entremêle sans vraiment de classification, vous avez en effet une mémoire qui est atteinte, qui ne fonctionne pas. Il a beau faire l'éloge de la mémoire involontaire, c'était un mémorisateur considérable, comme le prouvent les descriptions au millimètre qu'il peut faire des aubépines ou d'un poisson qui est sur la table, etc. Donc une mémoire, un enregistreur. C'est pour ça que c'est comme la peinture. Tous les artistes développent leur mémoire de façon personnelle. Et c'est ce que quelqu'un peut faire. Il n'y a pas de... Tout le monde est artiste, d'une certaine façon. Tout le monde est une sorte de trésor personnel. Donc il faut défendre des sujets, pas des foules.
Et selon vous, est-ce que Venise est particulièrement propice à révéler ça, justement, chez quelqu'un ? Parce que quand même, j'en reviens à la question initiale, il n'y a peut-être pas de réponse, vous allez pouvoir me dire, mais on ne choisit pas, la question pourquoi n'a pas de sens. Mais quand même, je veux dire, Venise a été choisie, élue, ou s'est imposée comme cette ville où les écrivains vont écrire, passent une moitié de l'année pour aller écrire. Cette ville que l'on loue, que l'on honore.
Excusez-moi, je ne crois pas qu'il y ait, à part moi, qui ai fait ça depuis au moins 40 ans, d'écrivains qui écrivent à Venise, dans un lieu précis à Venise. Ils ont écrit sur Venise, pas avec Venise dans la journée, le matin, le soir, l'après-midi, etc. Voilà. Donc Proust n'est allé qu'une fois. Morand, c'est un livre de la fin, où il ne vit plus à Venise. Voilà. Il n'a pas écrit Venise à Venise, si vous voulez. Voilà. Donc, quant à Thomas Mann, alors n'en parlons pas. Bon, c'est de l'imposture. Non, écrire avec Venise, en respirant l'air qu'il y a, le temps, les variations de climat, le corps entier est là pour vivre quelque chose de paradisiaque, disons les choses. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Et je ne peux pas dire que je vais me mettre à un autre régime que celui que je pratique comme un musicien. Voilà.
Il y a un écrivain vénitien dont on a un peu parlé là, en début d'année pour des questions d'actualité culturelle, mais c'est Casanova auquel vous essayez de vous accorder.
Il n'a pas écrit à Venise.
Il a écrit donc son histoire de ma vie qu'il a écrit en français et dans laquelle il relate notamment cette fameuse évasion que vous évoquiez tout à l'heure, l'évasion de la prison de Venise, les plombs, où il s'est évadé non pas par le bas, mais par le haut. Il a réussi à dépasser ces plaques de plomb que l'on mettait dans la prison. Pourquoi du plomb ? Parce qu'en hiver, c'est plus froid et en été, au contraire,
exact.
Le plomb est plus chaud.
Exact.
Il a réussi à s'échapper par le haut, ce qui est assez cocasse lorsqu'on sait, ça je le disais hier, qu'une des réponses célèbres de Casanova était de dire « Mais Venise n'est pas là-bas, Venise est là-haut, madame. »
À madame de Pompadour.
À madame de Pompadour.
Le soir même, il était célèbre à Paris, quand il a dit ça. Voilà, il avait de l'esprit. Vous savez que Casanova, il faut aller voir où il a écrit « Histoire de ma vie ». C'est-à-dire, c'est en Tchéquie, comme on dit maintenant, et c'est un petit château baroque, rose. Et je vous ai dit tout à l'heure que je demandais qu'on fouille pour retrouver dans une église ses ossements. Tout le monde s'en fout. C'est extraordinaire de savoir que, par exemple, en octobre 1787, Casanova est venu en voisin à Prague. Il est venu, pourquoi ? Parce qu'il y avait la première représentation d'un opéra d'un type qui s'appelait Mozart, figurez-vous. Mozart, c'était Don Giovanni. Et puis alors, il y avait Da Ponte, qui est le librettiste, et Casanova est venu. On sait, on a découvert les papiers qui prouvent que Casanova a mis la main dans l'air du catalogue. En Italia, mille tre, et Sangia, mille tre. Voilà. Eh bien, on pourrait écouter ça, ça nous mettrait
dans le Giovanni, donc, qui chante
oui, par
mille
exemple,
trois.
L'air voilà, du catalogue, en hommage à Casanova et à Mozart. Voilà, par exemple. Et hélas. Et donc, c'est dommage, tant pis, ce sera pour une autre fois.
Mais alors justement, il nous reste quelques minutes, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission, sur Casanova en tant que tel, puisque vous dites, Casanova, il faut le lire, mais il faut le lire en entier ou ne pas le lire. On ne peut pas le lire juste par extrait comme ça. Donc,
vous l'avez dans la très belle édition, c'est celle, le texte a été très falsifié, etc. Bon, censuré, et c'est miraculeux d'ailleurs qu'il ait réussi à survivre, ce manuscrit. Il fallait voir l'arrivée du descendant allemand. Il y a d'abord eu une édition allemande. Ensuite, il y a eu une traduction française faite par un professeur d'université. Imaginez-vous qui a gommé tout ce qui ne pouvait pas être vraiment accepté par la lectrice idéaliste de l'époque, n'est-ce pas ? Bon, il fallait voir l'arrivée de ce manuscrit sous vitrine. Les caméramens, les photographes, c'était vraiment un événement considérable. Ils ne se rendaient pas compte que c'était écrit en français. Il y avait d'autre part un chèque de 7,5 millions d'euros sur la table avec le ministre de la Culture et le descendant allemand. Écoutez, il y avait donc d'un côté des photos, de l'autre un chèque. Et pendant ce temps-là, l'écriture et le récit de Casanova avaient disparu. Et ça donne tous les clichés sur Casanova, le plus effrayant étant la haine que lui voue Fellini, qui va jusqu'à le traiter de fasciste, de con, etc. Fellini a subi l'existence de Casanova ou du XVIIIe siècle comme une sorte de blessure personnelle qui engendre la haine. Vous voyez, il n'y a pas que les philosophes.
Là, de courir l'Europe, je me suis déterminé à solliciter ma grâce auprès des inquisiteurs d'État vénitiens. Pour cette raison, je suis allé m'établir à Trieste, où 2 ans après, je l'ai obtenu. Ce fut le 14 septembre 1774. Mon entrée à Venise, au bout de 19 ans, me fit jouir du plus beau moment de ma vie.
Thank you.
Merci beaucoup, Philippe Solers.
Non, c'est moi qui vous remercie.
D'avoir prêté votre voix au chant des gondoliers. gondoliers. Alors, de vous, on peut lire donc le Dictionnaire amoureux de Venise aux éditions Plon. On peut lire également La fête à Venise et aussi L'éclaircie, votre dernier livre qui vient de sortir. Et on peut lire aussi, chers auditeurs, Le contre-Venise de Régis Debray, si vous voulez avoir un point de vue opposé. Et également Le goût de Venise, hein, qu'on trouve aux éditions Mercure de France. Et également, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un bon prisme pour réfléchir aux questions évoquées aujourd'hui, dans Le gai savoir de Friedrich Nietzsche, un paragraphe que je mettrai en ligne sur le site internet, qui vous montrera justement comment les amoureux de la réalité sont eux-mêmes tout aussi amoureux de l'illusion. Vous irez voir, c'est passionnant. Il est bientôt 10h50 sur France Culture, du chant des gondoliers au journal de la philosophie. Vous êtes sur les nouveaux chemins et c'est l'heure de retrouver François Nudelman. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Ne pas consentir au pire, telle est peut-être la posture morale du philosophe. La violence n'est pas fatale, la démocratie n'est pas vouée au déclin, rappelle Marc Crépon dans ses deux derniers livres, Le consentement meurtrier, paru au Cerf, et Élection de la démophobie, chez Hermann. Marc Crépon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous dirigez aussi le département de philosophie à l'École normale supérieure. Alors, vous venez de faire paraître deux livres en même temps. On va commencer par Le consentement meurtrier. Consentement, comment peut-on consentir ? Ce que vous dénoncez, semble-t-il, c'est en quelque sorte l'accommodement avec la mort violente.
Oui, le principe de ce livre, c'est d'essayer de penser à quelles conditions on peut articuler l'éthique et la politique. C'est-à-dire à quelles conditions on peut, au nom de principes éthiques, adresser une injonction aux politiques.
Alors l'injonction éthique, c'est quoi ? C'est un appel à ne pas tuer, un appel à la prise de responsabilité ?
C'est un appel à rendre droit à la responsabilité du soin, du secours et de l'attention qu'exige de partout et pour tous, ou qu'appelle de partout et pour tous, la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Si on dit que ce principe-là est au fondement des relations interhumaines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir la relation avec autrui en dehors de cette responsabilité, et qu'elle est sans frontières, et qu'elle est sans limites, en réalité, dans notre vie quotidienne, nous passons notre temps à transiger avec ce principe. Et c'est cela que j'appelle le consentement meurtrier. Donc le consentement meurtrier, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment une dimension de l'existence. C'est-à-dire, nous vivons tous très bien, tout en sachant qu'il y a de la famine dans le monde, tout en acceptant un certain nombre de violences extrêmes, en restant passif, parfois même indifférent. Et c'est cette dimension-là de l'existence que j'appelle le consentement meurtrier. Mmh. Alors évidemment, il ne s'agit pas de s'y résigner, il ne s'agit pas de sombrer dans l'idée qu'il n'y a rien à faire ou qu'on ne peut rien faire, il faut imaginer des réponses. Et donc ce livre a le double objectif, à la fois de décrire le consentement meurtrier comme une dimension de l'existence et d'essayer, à l'appui de la littérature, avec la littérature comme appui, d'imaginer quelques réponses à ce consentement meurtrier.
Est-ce que votre approche est lévinassienne ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez à partir d'une éthique première ?
Oui, le chapitre central est porté par deux voix croisées. C'est le principe de tous les chapitres. Ils sont toujours portés par la voix d'un écrivain et la voix d'un philosophe. Et ces deux voix, ce sont celles de Lévinas et de Vassili Grossman qui se répondent. Et évidemment, à partir du moment où l'on décrit la relation à autrui comme responsabilité du soin, du secours et de l'attention qu'exige sa mortalité et sa vulnérabilité, ce principe a évidemment une résonance lévinassienne.
Alors, quelles sont les figures ou les principes que vous opposez au consentement ?
Quatre, essentiellement. La révolte, que j'illustre à travers une lecture de Camus.
Je me révolte, donc nous sommes.
Oui, je me révolte, donc nous sommes. Donc une des réponses possibles au consentement meurtrier, c'est la révolte. Une deuxième réponse au consentement meurtrier, c'est la bonté, au sens lévinassien et au sens de Grossmann aussi. C'est cette bonté que décrit si bien Grossmann dans Vie et Destin de multiples reprises. Une troisième réponse au consentement meurtrier, c'est la critique, évidemment. C'est-à-dire, c'est la critique des images et des textes et des discours qui nous induisent à faire des différences, c'est-à-dire à faire des entorses à cette responsabilité, à considérer que les morts n'ont pas le même prix, les victimes n'ont pas le même poids ici et ailleurs. Et puis la dernière réponse, c'est la honte.
Alors pourquoi la honte? En même temps, ça ne se commande pas. C'est indépendamment de nous que...
Non, la honte...
Est-ce que c'est un effet
sur moi? Parce que le dernier grand chapitre de ce livre est consacré à Hiroshima. Il y a quelques années d'écart, le philosophe allemand Günther Anders et l'écrivain Kenzaburo Oe, que je fais se répondre et s'interpeller dans ce dernier chapitre, Günther Anders et Kenzaburo Oe se rendent à Hiroshima et rencontrent les victimes. Et rencontrent les victimes d'Hiroshima, les survivants d'Hiroshima, les Ibakusha. Et l'un et l'autre décrivent la façon dont ils se sentent alors submergés par un sentiment qui est le seul sentiment qui puisse être à la hauteur de ces victimes, c'est celui de la honte. Voilà. Donc je pense qu'on peut avoir effectivement face au spectacle de ce que les hommes sont capables d'infliger aux hommes, c'est-à-dire face aux formes extrêmes du consentement meurtrier, il n'y a pas d'autre sentiment possible que celui de la honte. Mmh.
Marc Rabon, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'on voit un philosophe, prendre appui sur des références littéraires constamment. Camus, Primo Levi, Vassili Grossman, Chalamov, Anthelme, oui. Alors pourquoi ce recours à des textes, à des témoignages, mais qui passent par la littérature?
Alors ce que c'est les textes littéraires m'ont le plus apporté, c'est d'abord la légitimité des réponses. C'est-à-dire, si vous dites comme ça, d'un point de vue strictement théorique, l'une des réponses qu'on peut apporter au consentement meurtrier, c'est la révolte, la bonté, la honte, la critique, cela peut paraître des réponses faciles. Mais lorsque la révolte s'illustre à travers les contradictions auxquelles sont exposés les personnages de Camus dans Les Justes, par exemple, lorsque la bonté est illustrée par les réactions du personnage d'Ikonikov dans Vie et Destin, lorsque la honte est décrite par l'écrivain Kenzaburo, alors ces réponses prennent une toute autre dimension. Mmh. Et puis par ailleurs, il me semble que ce que la littérature apporte, c'est l'expérience singulière, c'est-à-dire la singularité que le concept ne donne pas. Mmh.
Il y a un autre consentement que vous contestez, c'est le consentement, au déclin de la démocratie ou à l'abandon de la notion de peuple. C'est votre deuxième livre, Élection, sous-titré de la démophobie. Alors, il y a ceux qui n'aiment pas le peuple, mais bon, ça c'est une vieille histoire et que vous connaissez bien. C'est la peur des gouvernements face à la contestation populaire. Mais il y a aussi les théoriciens, et théoriciens même parfois de gauche, hostiles à la démocratie, parce que c'est la loi du nombre, c'est en quelque sorte le gouvernement d'un peuple ignorant. Et c'est ce que vous mettez en cause donc, dans ce livre.
Oui, le clin d'œil un peu ironique du livre, c'est de renvoyer dos à dos certaines pratiques gouvernementales de minimisation systématique de la vox populi avec des théories contemporaines de la démocratie qui reviennent, elles aussi, de la même façon à minimiser la vox populi.
Alors, qui est visé? Qui? On veut des noms.
Écoutez, essentiellement, donc l'un des chapitres les plus critiques et les plus sévères de ce livre est consacré à Alain Badiou et au texte d'Alain Badiou dans lequel il répète à l'envi sa défiance à l'égard de la démocratie. Mais plus généralement, ce que je pointe dans ce livre, c'est le trait commun à la plupart des critiques de la démocratie qui consiste à appuyer la critique sur une image, sur la construction d'une image péjorative du peuple, comme victime de ses affects, victime de ses passions, ou désaffecté, ou suraffecté, Ce livre a donc cette dimension critique et théorique. Il a aussi une dimension militante, puisque c'est un livre qui consiste aussi en un plaidoyer contre l'abstention.
Il faut voter.
Il faut voter, c'est voilà. Peut-être c'est le résumé du livre.
Merci Marc Répond. Je rappelle le titre de vos livres, donc Le consentement meurtrier au CERF et Élection de la démophobie chez Hermann. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci François. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de notre semaine consacrée à Venise. Et demain, enfin, nous parlerons de Proust, de la Venise rêvée du côté de chez Swann à la Venise vécue d'Albertine disparue. Et c'est Jean-Yves Tadier qui viendra nous parler donc de Venise, la Venise dans La recherche du temps perdu. Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins, où vous trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et de la semaine d'ailleurs. Et vous pourrez également télécharger cette émission pour la réécouter où vous voulez, quand vous voulez, en conduisant, en marchant, en dormant, en cuisinant. C'est à votre guise. Un grand merci également à Daniel Mesguich, dont la voix nous accompagne toute cette semaine.